Bonjour à toutes et à tous, 43e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rhodes, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rhodes du souvenir français.
Toujours.
Bien sûr.
Bien sûr.
Alors Vincent, lors du dernier numéro, le précédent, tu nous avais annoncé pour celui-ci que tu allais nous parler de du pont de Ligonnès. Tu l'as retrouvé ?
Oui, alors je l'ai pas retrouvé.
Ah.
Et c'est pas le criminel, hein.
Ah bon ?
Et d'ailleurs, celui dont je voulais vous parler,
oui,
c'est Monseigneur Charles Dupont de Ligonnès, mais je l'ai pas trouvé non plus.
Cette famille.
C'est la famille.
Ils sont secrets, non, famille.
En fait, je vous promets, on en parlera dans une prochaine chronique.
Ouais.
Voilà. Pour l'instant, j'ai pas assez de. Parce qu'il a vraiment une vie intéressante que je voudrais vraiment creuser. J'ai pas trouvé assez d'informations.
D'accord.
Et puis surtout, il m'est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel.
Ah, t'as gagné au loto ?
La semaine dernière.
Non.
La semaine dernière, et justement, j'ai voulu changer ma chronique.
Ouais.
Vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup.
Ah, alors c'est
La semaine dernière, en fait, j'ai reçu un coup de téléphone des deux petites filles d'un très célèbre Aveyronnais qui a beaucoup œuvré pour la langue occitane et la culture occitane, ainsi que pour la transmission de nos traditions dans notre beau Rouergue.
D'accord.
Il s'agit d'un Espalionnais qui était poète, écrivain, grand collectionneur et majoral du Félibrige. Est-ce que ça te dit quelque chose ?
Non, majoral du Félibrige, t'en as évoqué un dans un précédent numéro de Mémoire Aveyronnaise, mais là, ça doit pas être le même, parce qu'ils en changent de temps en temps. Non, là, franchement, là, Vincent, sans vouloir... Non, là, je sais pas.
Je vais vous parler de... Enfin, du très célèbre Joseph Vaillet.
Joseph Vaillet ?
Le musée Joseph Vaillet à Espalion, ça te dit rien ?
Bah,
encore une visite à cocher sur ta liste. Excuse-moi, mais je suis désolé, à cause de moi, ta liste s'agrandit. À chaque fois que je viens, t'as ta liste qui s'agrandit encore plus.
Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Puis petit à petit, je coche les cases, mais petit à petit.
Joseph
Vaillet,
qui est mort en 1982, donc tu vois, c'était hier.
D'accord, ouais, si deux de ses petites filles t'ont appelé, oui, c'est un homme du XXe siècle.
Ah oui, tout à fait. Beaucoup de gens qui sont encore vivants, largement, l'ont connu. Alors moi, j'étais sur Rhodes, j'étais pas sur Espalion quand j'étais gamin.
Ouais.
Je suis né en 76, mais tu vois, j'aurais pu le connaître. Malheureusement, j'aurais bien voulu, parce que je te dis, c'est quelqu'un auquel je suis très attaché.
Oui.
Et je regrette, tu vois, de pas l'avoir croisé, de pas l'avoir connu. Enfin, j'étais petit.
Voilà. En tout cas, dans cette émission aujourd'hui, tu viens nous présenter donc Joseph Vaillet.
Nous allons beaucoup parler d'Espalion.
On va découvrir.
Ouais,
c'est bien. Alors, qui c'est ? Où est-il né ? Quand ? Allons-y.
Alors, ces deux petites filles.
Oui.
Odile et Françoise, que je salue parce que je sais qu'elles nous écoutent et que je tiens à remercier une nouvelle fois, m'ont fait un très très beau cadeau. Comme elles savent que j'aime vraiment beaucoup Joseph Vaillet et son œuvre, elles m'ont offert de très nombreux souvenirs de leur illustre grand-père. C'est chouette, hein.
Ouais.
Quoi, coup de fil comme ça, j'aimerais en recevoir toutes les semaines.
Ouais, tu m'étonnes, oui.
J'ai eu la grande joie de récupérer des vêtements de Joseph Vaillet, des manuscrits, carrément, de poèmes et de chansons, des photos et aussi plein de souvenirs de Joseph Vaillet, de ses collections. On va en parler tout à l'heure.
Ouais, tu vas détailler tout ça parce que je suis curieux, des bibelots, des trucs.
J'étais vraiment, vraiment gâté. Ouais, je suis vraiment, vraiment content.
Bon, très bien.
C'est pour cela donc que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de lui. Alors, Joseph Auguste Émile Vaillet est né le 12 novembre 1894 au Mas-Nouvelle, qui se situe sur la commune de Saint-Geniez-d'Olt.
Oui.
Il fait ses études à Espalion, et le pauvre, comme il est né en 1894...
Ah, il va se taper la première.
Eh ben, il fait partie de la classe 1914.
Ouais.
Au lieu de faire son service militaire, alors lui, il part directement à la guerre. En étant incorporé dans l'armée le 9 septembre, il va énormément bouger. On va le voir, c'est même étonnant de voir. Un soldat n'a pas fait toute la guerre dans le même régiment. Il changeait des fois une ou deux fois.
Ah bon ? Oui.
Mais on va voir, là, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Il a énormément bougé entre 1914 et 1919.
Déjà, c'est bien qu'il s'en soit sorti, hein, parce que
ouais.
Même en bougeant...
Ouais. Il va énormément bouger donc, et passer successivement, alors accrochez-vous bien, par les 58e et 149e Régiment d'infanterie.
Ça, c'est la base, c'est son point de départ d'infanterie.
Il commence par ça.
Les troufions, comme on dit.
C'est ça.
Okay.
Les 30e et 50e bataillons de chasseurs à pied.
Ah, ça commence à être plus pointu.
Le 105e régiment d'artillerie lourde.
Ah, oui.
Les 63e et 66e régiment d'artillerie de campagne.
Ah, bah dis donc.
Et il finit la guerre au sein des 5e et 405e régiment de DCA. Tu sais, la défense contre avion.
Oui, quand les premiers avions, c'est donc ça. Les premiers trucs pour les descendre. C'est ça. Petite question, Vincent, oui. Parce que tu es un expert de ces choses-là militaires, l'histoire militaire notamment. Là, c'est 7 ou 8 régiments qu'il a, il a fréquenté. Bon,
c'est énorme.
C'est exceptionnel. Ah ouais, mais c'est quoi les explications?
Alors, les explications.
Il est monté en grade, machin.
Non. Des blessures. Les explications, on va le voir juste après.
D'accord.
En fait, il va être blessé.
Ouais.
Et il va être classé. Pas dans la réserve, mais si tu veux, on manque tellement de bras que plutôt que de le renvoyer chez lui, parce que il est blessé, mais c'est pas des blessures non plus très graves. Mmh. En fait, on va le mettre dans un endroit un peu plus à l'abri.
D'accord.
Et dans un endroit où on bouge moins que dans l'infanterie, c'est-à-dire l'artillerie. Ouais, voilà. Qui à l'époque était, on se déplaçait pas à pied dans l'artillerie, on se déplaçait avec les canons, soit à cheval, soit les premiers tracteurs. Tracteurs, c'est des camions.
Des vrais tracteurs, pour le coup.
Les canons. Mmh. Donc, si tu veux, puis on est un peu plus à l'arrière.
Ouais, quoi que l'artillerie, ils en prenaient sur la gueule aussi. Hein.
Ils en prenaient sur la gueule aussi quand les pièces d'artillerie explosaient pas toutes seules.
Ouais.
Donc, si tu veux, oui, c'était pas si à l'abri que ça. Non. Mais c'était déjà un peu plus à l'abri que.
C'était pas dans la tranchée,
que la bif, comme on disait, que les fantassins.
Bien sûr.
Alors, en 1915, il obtient le grade de caporal. Mm-hmm. Et alors, j'en arrive justement à sa blessure. Il attrape le typhus. Au front, qui lui cause un très important œdème à la jambe droite. Cette blessure, en fait, va l'handicaper toute sa vie et va lui valoir une invalidité à 50%.
D'accord. Oui.
D'ailleurs, dans tous les trésors que j'ai récupérés, il y a une paire de chaussures spéciales réalisées par le Centre d'appareillage militaire de Toulouse, qui dépend du secrétariat d'État aux anciens combattants.
Ça doit être quelque chose, la chaussure.
Ouais, à voir, c'est vraiment impressionnant, parce qu'il y a une chaussure, c'est des grosses chaussures, un peu comme j'imagine. Des gros godillots un peu militaires, quoi, entre la chaussure de marche et la chaussure militaire. Et l'autre, par contre, il y a un talon qui est... Ok, trois fois
compensé
plus haut.
Compensé largement.
Compensé, trois fois plus haut que l'autre. Mmh. Et on a même, je ne sais pas s'il avait le pied atrophié, mais on a même l'impression que du coup, le pied qui rentre dedans, d'après ce que j'ai pu en voir, est beaucoup plus petit que la chaussure normale. Donc, il en a beaucoup souffert. Donc, ce n'est pas une blessure réellement de guerre. C'est plus une plaie suite à une maladie contractée au front.
Bah ouais.
Voilà. C'est pas une blessure de guerre.
Non,
c'est pas un éclat d'obus, c'est pas une balle.
Il n'aurait pas attrapé à Espalion, son typhus.
Non. À son retour de la guerre, il devient greffier. Au tribunal de commerce de Saint-Geniez-d'Olt de 1921 à 1925.
D'accord.
Puis il est muté à Espalion pour exercer les mêmes fonctions de 1925 à 1963, l'âge de sa retraite.
Tu vois, on dit que le temps passe et les choses progressent, mais bon, en matière de justice, non, parce qu'à l'époque, il y avait un tribunal à Espalion et un autre à Saint-Geniez. Aujourd'hui, bonjour, il n'y a plus personne.
Ah, tout à fait. Et en plus, on l'oublie, mais Espalion, à cette époque-là, était
sous-préfecture.
La troisième sous-préfecture de l'Aveyron.
Tout à fait.
Il s'installe définitivement à Espalion en 1927, à la suite de son mariage avec Alphonsine Vergely. Il aura de cette union un garçon et une fille. Alphonsine ouvre une chapellerie à Espalion.
Donc elle fabrique des chapeaux, pas des chapelles.
Voilà, tout à fait. Et en fait, cette chapellerie existe toujours, ce qui est assez formidable.
Ouais.
Elle est tenue par Odile.
La fille.
Par sa petite fille.
Ah ouais.
C'est la petite fille d'Alphonsine et Joseph. Et en fait, la boutique s'est transmise de mère en fille sur trois générations.
Ah, super. Donc là, la boutique de la chapellerie, elle existe encore à Espalion.
Elle
est
toujours ouverte, tout à fait. Tout à fait. Moi,
je suis allé chercher d'ailleurs
tous les trésors ah, là-bas. À la chapellerie.
Ah oui. D'accord.
Et il y a de très beaux trésors dans cette chapellerie. Il y a des beaux chapeaux. Odile s'occupe aussi de groupes folkloriques à Véronée.
Ah ouais, d'accord.
Dont elle fait partie. Donc il y a aussi, tu sais, tout ce côté des beaux chapeaux de
les coiffes,
tout ça. Ouais, toutes ces coiffes. C'est vraiment très beau. Il y a autant des choses très modernes que des choses, tu vois, très traditionnelles. C'est vraiment sympa.
La prochaine fois.
Le 30 mars 1940, puisque la première guerre, ça suffit pas, la guerre le rattrape, il est mobilisé rejoint le dépôt d'infanterie numéro 161 à Albi.
Il avait 45-46 ans.
Oh, tu m'épates toujours, qu'est-ce que tu calcules bien 46 ans.
Ouais.
Au vu de son âge avancé et de son invalidité à 50%, il est renvoyé dans ses foyers quelques jours plus tard.
Ah, voilà.
Ouais, quand même.
quand même. Ouais, tu m'as fait peur, bon, ça va.
Quand même. Okay. Il va écrire un beau poème sur ce qu'il appelle les bipoilus.
C'est quoi ?
Bipoilus, c'est le poilu qui a fait à la fois la guerre de 14 et la guerre de 40.
Il y en a eu.
Il y en a eu, mais lui ça a failli.
Il a un peu.
Lui ça a failli.
À un poil près.
C'est ça. Mais lui, il est la classe 1914. C'était quand même assez rare. Ce qu'on trouve beaucoup plus, c'est les dernières classes, la classe 18
oui,
ou la classe 19.
Oui, ceux qui sont nés quelques années
qui
plus
déjà,
tard.
Qui déjà aussi avaient quelques années.
Ouais, à 40 ans.
En 40, ouais, tout à fait. Ouais. Joseph Vaillet est un disciple de Frédéric Mistral.
Oui.
Amoureux fou de la langue occitane et de la culture aussi occitane, il contribue à leur renaissance et à leur maintien. À une époque où l'école de la République faisait tout, malheureusement, hein, pour éradiquer les langues et les traditions régionales.
Oui, bien sûr. Voilà. Pas qu'en Occitanie, en Bretagne,
partout,
c'est pareil.
Partout. À la limite, même peut-être plus en Bretagne que chez nous. Mais chez nous, enfin, partout.
La Bretagne, c'est plus grand, il y a plus de monde, on en a plus parlé, mais ici, c'était pas mieux. Et sinon, Frédéric Mistral, on rappelle, prix Nobel de littérature.
Oui, tout à fait.
Quand même.
Majoral du Félibrige.
Et majoral du Félibrige. Oui.
Il est un membre fondateur du Grêle Rouerga en 1921 avec ses amis Bouissou, Henri Mouly, Jean Boudou, le fameux Jean Boudou,
Jean Boudou.
Et Georges Girard. Mmh. Le Grêle Rouerga signifie le grillon Rouerga. Mmh. Tu sais, on en avait parlé dans nos deux chroniques historiques sur Jean Béthou.
Qui
faisait partie aussi du Grêle Rouerga et qui a croqué beaucoup de personnes, qui a dessiné beaucoup de portraits de ses membres de ce Grêle Rouerga.
Ah, ouais.
Il s'agit d'une association qui regroupe tous les amoureux et les acteurs de la langue occitane dans notre département, et elle existe toujours. Joseph Vaillet est un écrivain très prolixe. Il a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages et de plaquettes en français et en occitan, ainsi qu'un très grand nombre de chansons et de poèmes.
D'accord. Et ces ouvrages, c'est du roman, c'est du conte, c'est de la poésie.
C'est de la poésie, c'est surtout romancé, surtout poésie. Il a écrit un livre sur l'ail aussi. Il a écrit un livre sur la... Sur la chemise, je sais plus comment on dit, pas chemise nuptiale, mais à Espalion, si tu vas au musée Joseph Vaillet, tu verras, il y a une chemise conjugale. C'est une très grande chemise en lin avec une ouverture bien placée.
Ah oui, d'accord.
Pas dévoiler, pour faire son travail de procréation, mais pas dévoiler le reste du corps. Donc, c'est assez amusant. Des fois, il avait un esprit assez grivois. Entre 1939 et 1940, il est, accroche-toi bien, secrétaire général gérant d'un journal qui s'appelle l'OHUC, qui est le cri de guerre des Gaulois, en fait, qui est un cri aussi repris par nos montagnards et sur les monts d'Aubrac, qu'on peut retrouver également dans le fameux cri, c'est dans les danses traditionnelles, les danses folkloriques.
Je connaissais pas.
Ce journal a pour but de donner des nouvelles du pays et des Aveyronnais, aux Aveyronnais de Paris et aux Aveyronnais partis combattre sur le front.
Ah ouais, parce qu'on était dans la drôle de guerre, comme on dit, là, septembre.
Tout à fait, 39. Et jusqu'en Noël 1940.
D'accord.
Et après, ça a été le gouvernement de Vichy, tu sais, a voulu contrôler la presse et a interdit beaucoup de petits journaux. Ouais. Donc voilà. Joseph Vaillet est aussi un personnage vraiment très surprenant, très très surprenant, à plein de titres, on est en train de le découvrir. Mais alors qu'il est catholique et qu'il va à la messe chaque samedi soir, il est également pris de passion pour le druidisme.
Ah ouais, bah oui, c'est ça. Oui,
mais j'ai vu que c'était pas incompatible avec la religion catholique.
Écoute, je te crois sur parole, parce que sinon je suis pas sûr.
Ouais. Il est membre du collège bardique des Gaules.
Ah, les bardes.
Ouais,
comme
fondé en 1933.
Ah d'accord.
Il est d'abord barde.
Ouais.
Donc le barde, je le rappelle, c'est un lettré qui tient une place importante dans la société, à l'époque gauloise ou celtique, en perpétuant les traditions orales par le chant ou par la musique. On se souvient, je ne sais plus comment il s'appelle.
Assurance Tourix.
Ah voilà, Assurance Tourix, du barde qui est toujours attaché
la gueule,
dans le village des irréductibles gaulois d'Astérix et Obélix. En 1937, il devient druide. Et Espalion accueille, grâce à lui, le deuxième congrès du collège bardique des Gaules.
Ça alors ?
Ouais, ça c'est surprenant, surtout quand tu vois les photos.
Ah bah, j'allais peut-être oser te demander, parce que le druide, on imagine quelqu'un avec une grande robe, machin.
Tout à fait.
Et puis les cheveux longs,
Il
était comme ça ?
Tout à fait. Alors apparemment, si j'ai bien tout retenu, les druides étaient en je sais pas si on peut parler de robe, mais en tunique, les très longues tuniques blanches. Mmh. Et si j'ai bien compris, ça c'est sûr, mais si j'ai bien compris, les bardes avaient la même tunique, mais bleue.
Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est intéressant, je savais pas, tu vois.
Alors, en tenue de cérémonie, les druides et les bardes assistent avec la population à une grande messe en l'église paroissiale, avant de défiler dans les rues du village. Oui, oui, dans l'église. Ah, et avant de défiler dans les rues du village, au son de la cabrette et de la vielle.
Ah bah, il avait l'ouverture.
Donc, grande procession, grande fête.
Le curé du village, il avait l'ouverture d'esprit. Hein, pour,
c'est ça. Et la messe, apparemment, en français, avec le prêche en occitan, d'après ce que j'ai pu lire. Ouais, ouais. La foule se dirige ensuite vers le foirail, où un immense dolmen a été dressé pour la cérémonie druidique.
Un vrai dolmen en pierre?
Ben, de trois montants en pierre qui ont été dressés comme
pas
un dolmen.
Un truc comme carton, pas un truc de déco.
Non, en pierre. Puis, apparemment énorme, hein, vraiment gigantesque. Oh, donc, tu vois, messe catholique au début de la journée.
Et dolmen dans le foirail espagnol.
Et cérémonie druidique avec sur un dolmen, c'était quand même assez particulier. Mais
ça a dû être un chantier installé, ce truc-là.
Ouais, sûrement. Vaillé sera fidèle au druidisme jusqu'à sa mort. Mmh. En fait, on le verra à la fin de cette chronique.
D'accord. Juste, moi, j'ai une question sur le dolmen, excuse-moi, Vincent.
Dis-moi.
Tu sais ce qu'il est devenu, ce dolmen? Alors, ils l'ont pas laissé. Alors, j'étais à Espalion il y a un mois.
D'après ce que j'ai cru comprendre, ils l'ont laissé.
Ah bon?
Mais au bout d'un moment, ça a commencé à embêter la municipalité qui a demandé, mais je crois quelques temps après, hein, assez longtemps après, qui a demandé qu'il soit enlevé.
Mais moi, je serais curieux de savoir où elles ont été posées, ces pierres du dolmen.
Alors, attends la fin.
Ah, oh, il a la réponse.
J'ai pas de
réponse.
J'ai pas la réponse pour ce dolmen. Voilà.
Je te laisse poursuivre.
Voilà, j'en dis pas plus.
Ok.
vous l'aurez compris, chers auditeurs, Joseph Vaillé est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et auquel je m'identifie aussi un peu, car nous souffrons tous les deux de la même maladie.
Ah, qu'est-ce que vous avez... Et toi, tu collectionnes...
La collection... Ouais, la collectionnite aiguë.
Ouais, ça va, c'est pas une maladie, oui.
La collectionnite aiguë.
Oui, oui.
En plus de sa passion pour l'écriture, il est aussi extrêmement connu en Aveyron, et peut-être même plus, pour ses innombrables collections. Il collectionnait en priorité tout ce qui touchait, bien sûr, à ce que l'on appelle maintenant l'art populaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne les vieux métiers, les vieux objets, les vieux outils,
l'artisanat,
les vieux meubles, etc., de nos campagnes. Mmh. Il a ainsi aidé à sauvegarder, à une époque où beaucoup de choses ont été jetées au nom de la modernité. C'est grâce à ces gens-là, en fait, que beaucoup de choses n'ont pas été balancées. Mmh. Et nous sommes, ça fait partie vraiment de notre patrimoine. Hein.
Oui, bien sûr.
Ouais, de notre patrimoine matériel, au même titre que les châteaux ou les églises. Il a également collecté un nombre tout à fait impressionnant de bénitiers qui étaient présents autrefois dans chaque maison, accrochés au mur de la chambre à côté de la tête de lit.
Ah, je savais pas non plus. Ça,
une très, très, très grosse collection.
Parce que j'allais dire où est-ce qu'il est. Parce que les bénitiers.
Énorme. Mais autrefois, il y en avait dans toutes les maisons.
Ah, bon, tu vois, je savais pas.
Aux têtes de lit, on mettait un petit peu d'eau bénite tous les soirs.
D'accord.
Tu sais, c'était des époques incertaines où il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Et tu sais, pendant des siècles, l'endormissement, c'était une petite mort.
Oui, t'as rancé pas.
Les vieux lits d'autrefois étaient très courts parce que pendant des siècles et des siècles, on dormait assis. Parce que la position couchée était la position du mort.
Oui.
Tu vois, on dit toujours, quand on voit des fois des lits très anciens, on dit, mais ils étaient petits à l'époque. Non, ils étaient à moitié. Ils n'étaient pas vraiment assis, mais à moitié assis, à moitié couché. Parce qu'on disait que si on s'endormait couché, on se réveillerait pas. Enfin, il collectionnait tout ce qu'il pouvait trouver ou tout ce qu'on pouvait lui amener comme objet de curiosité ou même objet exotique. Comme par exemple, il a dans ses collections, qui est toujours visible, une extraordinaire armure de samouraï japonais.
Ah oui, là, c'est pas terroir, là.
Non.
Le coup,
mais vraiment, tu vois, très hétéroclite. Ouais, ouais. Autant du terroir, autant ce qu'il pouvait trouver ou ce qu'on pouvait lui amener. Écoute, moi, je suis bien placé, moi qui m'intéresse beaucoup aux objets aussi. Il y a des objets, on a ramené de tout temps des objets très, très hétéroclites et très...
Oui, les cabinets de curiosité au 18e siècle.
Des morceaux de momies d'Égypte, des statues africaines à des colonies.
Bien sûr.
Partout où des gens sont partis en voyage, tu sais. Donc, on peut retrouver chez nous des objets, mais vraiment, vraiment très exotiques et très, très hétéroclites, qui s'expliquent parce que, voilà, ça a été ramené tout simplement d'une expédition militaire ou d'une expédition, tu vois, de recherche
ou de
voyage.
Tout bêtement. Japon, tout bêtement. Ça existait déjà.
Ouais. Très tôt, Joseph Vaillé a voulu partager avec le plus grand nombre sa passion pour les objets. Il a créé un premier musée dans sa propre maison familiale, boulevard Poulenc, à Espalion, de 54 à 63. Puis, au vieux palais Renaissance qui surplombe le Lot, de 1963 à 1977, tu connais ce vieux palais ?
Oui, enfin de vue.
Ah ouais, de vue, c'est vraiment magnifique. Ouais. Il abrite souvent des expositions d'art à l'intérieur, donc tu peux essayer des fois d'ouvrir la porte, même des fois c'est ouvert, il y a de très belles expos. Il sert, je crois, de résidence pour des, ou il servait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, pour des artistes.
D'accord.
Et de 1977 à nos jours, ce musée a été transféré dans l'ancienne église Saint-Jean qui date du 15e siècle, qui se trouve au Place du Marché.
D'accord, ouais.
Ce musée Joseph Vaillé partage cet auguste bâtiment avec le musée du Scaphandre. Non, ça t'interpelle pas, musée du Scaphandre à Espalion?
Ah ben, si, la première fois qu'on m'a parlé d'un musée du Scaphandre à Espalion, j'ai dit, ça va pas bien à Espalion. Hein. Mais depuis, on m'a expliqué.
Créé par Don Averroné, Rocaillerol et Don Rose. Ça s'explique, deux Espalionnais. Mais il est prévu qu'il déménage à nouveau, une nouvelle fois, pour se retrouver dans les anciennes prisons d'Espalion, qui sont les premières prisons cellulaires de France. Très intéressant.
Ouais, t'es sûr, parce que moi, on me dit, tiens, allez, on va déménager, on te mène en prison, c'est pas une bonne nouvelle. Hein.
C'est ça. À visiter, c'est pas mal.
Ah, bah, d'accord.
À visiter, c'est pas mal. Puis bon, il y a plus, ils ont enlevé tous les détenus depuis belle lurette. Il y a personne qui sèche encore dans un cachot. Oui. Alors, je suis très attaché à ce musée, au musée Joseph Vaillé, au musée du Scaphandre, car j'y ai travaillé durant 3 saisons, et c'est là que j'ai rencontré Irène, mon épouse, que je salue et que j'embrasse.
Ah bah oui, là, pour le coup.
Donc
oui,
tu vois, écoute. on peut trouver des choses très sympas dans les musées.
Elle va être contente de t'entendre. Mais elle était visiteuse, touriste, ou déjà elle t'avait dans l'œil, elle t'a dit, tiens, je vais suivre?
Oh, en fait, allez, je vais vous dévoiler la petite histoire. Elle travaillait à cette époque-là au camping d'Espalion, et elle venait chercher des prospectus. et paf.
Ben voilà, mais c'est formidable.
Ouais, super. Très beau souvenir.
Ah bah, bien sûr. Ok.
Alors, on peut voir dans ce très beau musée un intérieur rouergue reconstitué, intérieur du 19e siècle, qu'on appelle le Lucantou. Oui. Lucantou, c'est un terme générique à la fois pour la maison et aussi pour la pièce à vivre de la maison et aussi la cheminée.
Le
foyer de la cheminée où on vivait réellement en Aveyron, c'est dans la cheminée, au plus près du feu.
Dans les campagnes françaises.
Et puis vraiment de très très beaux objets d'art populaire et autres. C'est vraiment une visite passionnante que, chers auditeurs, et même toi, et puis surtout toi, je vais tirer les oreilles, je vais t'amener par les oreilles. Ça devrait déjà être fait. Vraiment, ça mérite le détour. Joseph Vaillé s'éteint à Espalion le 19 décembre 1982 à l'âge de 88 ans. Il a obtenu de nombreux prix littéraires et décorations.
Oui.
Il reçoit l'œillet d'argent à Toulouse lors des Jeux floraux du Pays d'Oc et la distinction de Félibre en 1933. Il est nommé majoral du Félibrige, donc la plus haute distinction des représentants de tout ce qui touche à la langue et à la culture occitane, à Saint-Tropez en 1955.
Oh, dingue.
Et il reçoit à ce titre la Cigale d'or. Il est décoré de la médaille de la victoire de la guerre 14-18, des palmes académiques en 1935, de la médaille d'or des arts populaires et de la Renaissance française en 1964, de la médaille de Vermeil du mérite civique en 1966, et enfin, décoration suprême, de la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1979.
Parce que je commençais à me dire, si, quand même.
Quand même.
J'espère qu'il y a eu la Légion d'honneur. Ok, c'est bien.
Pour perpétuer son œuvre, l'association des amis de Joseph Vaillé, que je salue, a été créée en 1982.
Ouais.
Il s'occupe également de la très grande et très belle bibliothèque de Joseph Vaillé, qui se trouve aux anciennes prisons d'Espalion. Alors, elle ne se visite pas, cette bibliothèque, mais elle est faite pour les chercheurs.
Elle doit être pas mal, ça, tu vois, ça me...
Ouais, moi, j'ai eu l'occasion déjà d'y rentrer, il y a de très, très, très belles choses.
J'aimerais bien jeter un coup d'œil.
Qui lui ont appartenu, mais aussi beaucoup de textes, beaucoup de poèmes. Parce que j'ai parlé des livres qu'il avait écrits, mais avec toutes les notes qu'il a prises, on en parlera juste après de ces notes, il aurait pu en écrire bien d'autres. Ouais, vraiment bien d'autres. Et il y a des livres, d'ailleurs, qui ont été même écrits après sa mort, par justement l'association des amis de Joseph Vaillé.
À partir de ses notes.
C'est un travail sans fin parce que il y a des mètres et des mètres et des mètres cubes de documents, mais c'est très précieux et c'est vraiment très beau. Son buste en granit, réalisé par le sculpteur ruthénois Chauchard, est exposé dans le jardin du Vieux Palais, on en parlait tout à l'heure, qui a abrité son musée de 1963 à 1977. Sa tombe est aussi très singulière et même autant singulière que le personnage. Elle se trouve dans le cimetière d'Espalion, près de la superbe chapelle romane de Perse.
Ouais.
Je t'ai dit qu'on allait reparler de dolmen.
Oui, c'est là.
Fidèle au druidisme jusqu'à sa mort, accroche-toi bien,
en forme de...
il repose sous un dolmen formé de 3 grandes dalles de pierre.
Tu crois que c'est les mêmes pierres ou pas ?
Non, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'était... Là, c'est un petit dolmen.
D'accord.
D'après ce que j'ai vu, c'était le dolmen qui a été fait pour la fête druidique. C'était
le vrai
immense,
dolmen.
Où apparemment, on pouvait... je sais pas combien de personnes, pas mal de personnes qui pouvaient tenir dessus. Ça servait également d'estrade pour ces fêtes druidiques, apparemment. C'était gigantesque. Là, c'est un petit dolmen. Mais franchement, quand tu te promènes dans un cimetière et que tu vois 3 pierres dressées en forme de dolmen, ça fait vraiment bizarre. Mais c'est chouette et ça, franchement, ça, quand on connaît le personnage, ça lui va bien.
Ouais.
Il ne manque plus qu'une rue à son nom, lui qui a tant fait pour la ville d'Espalion. Mmh. Alors je lance un appel.
Ah bah oui.
je salue au passage le maire d'Espalion, Eric, si tu nous écoutes, si tu dois avoir une rue à baptiser, bon quand même, c'est dommage qu'il n'y ait pas de rue à son nom, parce que ça mériterait, avec tout ce qu'il a fait pour la commune.
On est d'accord, on est bien d'accord.
Avant de nous quitter, j'ai une dernière anecdote à vous raconter. Joseph Vaillé, je t'ai parlé de ses notes, écrivait sans cesse sur une multitude de morceaux de papier. Il y en avait vraiment partout. Et on ne voyait même plus son bureau et ses chaises quand on venait le voir dans son musée. Quand on voit les photos, mais il y en a partout. Et tu demandais un truc, apparemment...
Il savait où c'était.
Ah, il te le sortait tout de suite. Malgré presque les mètres de hauteur de documents. Un jour d'août, accroche-toi bien, un jour d'août 1958, alors qu'il revenait d'un voyage organisé en bus en Espagne.
Ouais.
La Guarda Civil, ça rigolait pas, ça rigole pas, mais alors à l'époque, en 1958,
ça rigolait
encore moins.
Ça rigolait pas.
Arrête nos touristes espalionnais pour un contrôle de routine avant de passer la frontière et de quitter l'Espagne. Joseph Vaillé, n'avait pas son visa à jour.
Ah.
Les gardes le font descendre du bus et se mettent à le fouiller.
Hein?
Malheur. Il trouve dans une de ses poches un de ces fameux morceaux de papier qui lui servait à écrire ses pensées.
Ouais.
En fait, ce papier, brouillon, était un bulletin de vote du Parti communiste français.
Oh,
ouais, t'imagines, qui avait servi pour une élection passée à Espalion.
Ouais, d'accord.
Un tract communiste dans l'Espagne du général Franco.
Ça passe pas.
Était vraiment une chose très grave. Notre Joseph Vaillé.
Il a passé une nuit au poste.
Et jeté en prison.
Eh ben oui.
Pas au poste.
Oui, enfin en prison.
Derrière les barreaux.
Ouais.
Et le bus retourne à Espalion. Sans lui. Toute la ville est sans dessus-dessous, parce que
c'est
ça a toujours été quelqu'un de très apprécié, de très connu, vraiment une grande figure d'Espalion. Ils nous ont pris Vaillé. On pouvait entendre dans tout Espalion. Un comité de salut public pour la libération de Vaillé est créé en catastrophe. Heureusement, le maire d'Espalion réussit à contacter les Espagnols et à expliquer
l'histoire.
Il est pas du tout communiste.
Et bien,
bien
chez nous en plus. Donc
mais il écrit sur tout ce qu'il trouve comme papier. Et les Espagnols acceptent de libérer notre pauvre Vaillé. Tout est bien qui finit bien. Pour conclure, je voudrais encore remercier très chaleureusement Odile et Françoise, les deux petites filles de Joseph Vaillé, ainsi que Eliane et Jean Moisset et Eliane de Martigny, qui sont membres de l'association des amis de Joseph Vaillé et également mes amis, pour tous les conseils et puis l'aide qu'ils ont pu tous m'apporter pour faire cette chronique où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, puisque je me répète toujours et encore, mais c'est un personnage qui me tient vraiment beaucoup à cœur.
Écoute, merci beaucoup Vincent de nous avoir fait découvrir.
Et t'as intérêt d'aller au musée, hein.
Pas Joseph Vaillé. Oui, je vais y aller. Oui, bien sûr, là tu m'as donné d'autant plus envie.
On fait un tour à la chapellerie, tiens, tant que tu
je ferai tout.
Va dire bonjour.
Non, mais je vais le faire, hein. En plus, j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça, Espalion. Mais tu vois, de toute façon, je vais y retourner, c'est pas loin. Super. Merci beaucoup, Vincent, pour cette nouvelle émission. La prochaine, c'est donc un jour.
Oui.
Est-ce que de Ligonnès ou...
Non, ça sera un peu plus tard, parce que j'attends des infos qui me manquent.
Non, mais tu n'es pas pressé. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on le recherche.
Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on recherche son arrière-petit-neveu.
Voilà. Donc, ok. Tu as une idée du sujet, sinon ou...
J'ai une idée du sujet.
Suspense.
Ce qui devrait se faire, mais voilà, je préfère pas le dire. Surprise.
Très bien. Merci beaucoup, Vincent, dans 15 jours.
Merci à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches.